Dans le cadre de Lille Métropole 2020, capitale mondiale du design, l'exposition Louvre Design, proposée aux visiteurs du 7 octobre au 1er février 2021, célèbre le design et ses origines. Elle crée un dialogue entre une sélection d'œuvres du Louvre de l'Antiquité à 1850 et une sélection d'objets issus de la démarche design de 1850 à nos jours. Nous retrouvons Samir Rio, l'un des deux co-commissaires de cette exposition, dans le pavillon vert du Louvre-Lens, le 6 octobre, veille de son ouverture au public. Samir Rio, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes designer et vous avez réalisé le co-commissariat de cette exposition qu'on peut voir actuellement au Louvre-Lens, Louvre Design, à voir donc jusqu'au 1er février dans le pavillon de verre. Tout d'abord, votre collaboration avec l'autre co-commissaire.
Alors oui, je suis co-commissaire avec Claire Fayol, qui est écrivaine et journaliste et historienne du design, assez influente, on va dire. Et du coup, on a fait le commissariat de l'exposition ensemble, et moi je me suis aussi chargé de la scénographie dans le pavillon de verre.
Voilà, donc au départ, pour vous, le design, c'est une passion ?
Moi, je suis artisan au départ, ébéniste. Le design, c'est plutôt été vu comme une curiosité, et puis ensuite c'est devenu une nécessité, parce que je pense que c'est une discipline par laquelle on peut faire bouger les choses et un petit peu bouger les lignes, et qui permet d'aborder énormément de sujets, et puis d'une nécessité après c'est devenu une passion. Oui.
Donc le design en France, c'est un mot assez récent, on va dire, dans l'usage courant. En Angleterre, ça correspondait peut-être plus à un mode de vie déjà.
Les anglo-saxons utilisent beaucoup design, mais ils mettent un autre adjectif derrière, c'est-à-dire c'est un product design, fashion design, graphic design. Donc ils segmentent c'est vrai que la manière dont on parle du design en France, alors ça peut être du design de service, du design produit, du design d'édition, mais c'est quand même très lié à l'objet. Mais je pense que oui, même quand on voit les précurseurs du design en France, ce sont des gens qui sont partis travailler aux États-Unis ou qui ont étudié au Royal College of Art à Londres, des gens comme ça qui sont allés chercher des notions du design plutôt dans des pays anglo-saxons pour le ramener en France. Mais disons que la pratique du design, elle était déjà présente en France. C'est simplement qu'on n'avait pas encore posé le mot dessus. On parlait plutôt de créateurs industriels.
Donc quand on parle industrie, on revient peut-être aux années 1850 et le grand développement qui a eu lieu en Occident, d'une manière générale.
Oui, aux premières expositions universelles, à la première révolution industrielle, à l'arrivée de la possibilité de produire en plus grande quantité et des objets d'une plus grande technicité grâce à l'arrivée de nouvelles formes de motricité dues au charbon, à la vapeur, etc. Et qui, en fait, heureusement, malheureusement, mais finalement, de bonnes choses ont découlé, qui ont été l'industrialisation. Elle a ensuite été quand même accélérée par les différentes guerres qui ont suivi cette révolution industrielle. Chaque guerre a donné comme une impulsion supplémentaire à l'industrie. Et en fait, de ces efforts de guerre ont découlé à chaque fois une nouvelle ère de l'industrie civile, on va dire, duquel le design est en fait l'héritier aussi.
Le design est un nom, mais c'est aussi quelque chose qui qualifie une ligne esthétique parfois, une fonctionnalité un peu particulière d'objets d'usage courant, mais parfois détournés.
Ben aujourd'hui, c'est là la richesse du design et de la manière, en tout cas, dont les praticiens le perçoivent aujourd'hui. Par le grand public, il y a encore cette notion de style ou de modernité, je pense, qui est peut-être contenue dans le mot. Par la manière dont il est généralement véhiculé, je pense que le design est par ceux qui le font, ceux qui en parlent et ceux qui l'apprennent, sert aujourd'hui à parler d'énormément de choses et de société, de problèmes aussi de société. Mais aujourd'hui, le design, ça peut être du design de scénario d'usage en vue des politiques publiques et de gestion d'un territoire, comme ça peut être le dessin d'une chaise, mais ça peut être aussi d'un habitat d'urgence pour une zone pour une zone où il y a une catastrophe naturelle. Donc le designer a tendance de temps en temps à se voir un peu en tant que sauveur. Je pense pas qu'il faut que ce soit perçu comme ça, mais en tout cas c'est vrai que c'est une discipline qui, par son côté généraliste et sa globalité, permet d'intervenir dans beaucoup de champs d'application et permet aussi de faire se rencontrer d'autres pratiques qui ne se seraient pas forcément croisées, car parfois trop spécialisées ou trop cloisonnées.
Donc cette exposition Louvre Design, donc jusqu'au 1er février à Lens, Samerio, elle est intégrée à l'ensemble du dispositif Lille Capitale Mondiale du Design. Comment vous êtes réparti les tâches en région ?
Alors, j'ai travaillé du coup avec Céline Savoie, qui est la première personne qui m'a contacté, qui elle gère justement toute la partie Lille Capitale Mondiale du Design, et avec Hall, qui sont autour du Louvre-Lens aussi, cette organisation, et avec le Louvre-Lens. C'est eux, le Louvre-Lens et Lille Design Capital, qui ont eu l'idée de l'exposition et qui nous ont associé, Claire et moi, ensuite à l'exposition. Moi, je ne suis pas de la région, je viens des Cévennes, mais je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin que tous les acteurs de l'exposition viennent de la région. L'idée, c'était justement de faire venir le plus d'acteurs possible pour cet événement qui est Lille Design Capital et de pouvoir ensuite l'étendre sur le territoire, en particulier en profitant du Louvre-Lens, et voilà, de faire venir des acteurs qui aient un œil sur ce que l'événement global pouvait raconter. Quand on voit les expositions qu'il y a en ce moment à Lille et celles qu'on ouvre ici et ce qui se passe au Fresnoy, etc., on se rend compte de du message fort qu'en fait toute cette manifestation arrive à faire passer.
Voilà, donc à Lens, au musée du Louvre-Lens, évidemment, il y a une culture particulière, muséale, on va dire, et des objets qui sont préservés, soit au Louvre-Lens, mais aussi au Louvre en Paris, et puis dans d'autres lieux, des objets auxquels vous avez fait appel pour donc présenter dans cet espace, l'espace de verre, on va dire ça, hein, du Louvre, Lens, donc des objets qui sont mis en perspective, en dialogue.
Oui, l'idée c'était de faire dialoguer des objets antiques issus des collections du Louvre Paris avec des objets domestiques contemporains, pour parler de la permanence de nos besoins, de nos usages, de l'esthétique, de la technique, et aussi de montrer qu'aujourd'hui on parle beaucoup de design depuis quelques décennies, depuis que le mot a été adoubé par la langue française, mais qu'en fait le design c'est la manière dont toutes les civilisations, que toutes les civilisations ont eu de transformer une matière naturelle en un objet, en des objets, en des semi-produits. Mais voilà, finalement, on se rend compte que le design est hérité de traditions qui sont, au-delà d'être séculaires, qui sont vraiment millénaires, et qu'il a toujours été présent dans la manière dont l'homme s'adaptait à son environnement et à son milieu.
C'est vrai qu'on voit bien que l'histoire et les pratiques dans l'histoire, la vie des hommes, ont toujours essayé de mettre les objets dans le meilleur de leur forme, si on peut dire, pour peut-être donner une petite touche de personnalisation ou d'esthétique à leur environnement.
L'esthétique et la personnalisation, c'est toujours quelque chose qui est apparu une fois qu'une civilisation avait survécu et avait réussi à s'installer. Ce qu'on trouve toujours en premier, c'est les outils de première nécessité. Et on se rend compte assez vite que ces outils, une fois que le confort et la survie est assuré, bah c'est là qu'on se met à les décorer et à ajouter de l'ornement, et en fait à leur donner une personnalité et à leur donner une culture aussi. Parce que je pense que la culture du design, elle est autant héritière de la technique, de la production des matériaux, qu'il s'agisse d'industrie ou d'artisanat, mais que de l'esthétique et de la manière dont tout ça est approprié autant par les designers qui la font que par les usagers qui se l'approprient ensuite.
Donc les designers sont les héritiers des artisans, on peut dire ça comme ça.
Oh, il y a beaucoup de designers qui sont artisans aujourd'hui, il y a beaucoup de designers qui sont de l'autoproduction, mais oui, complètement, historiquement, en tout cas chronologiquement, les designers sont les héritiers des artisans et permettent aujourd'hui une hybridation, en tout cas une porosité entre une industrie qui d'une part continue à se cloisonner, mais qui laisse quelques technologies, quelques outils grâce au numérique, sortir de ces jalons. Et ça, et voilà, ça permet aux designers, aux artisans de s'en saisir et de créer peut-être une nouvelle forme d'artisanat qui est un peu plus de sens que l'industrie actuelle qui n'a pour but que le progrès et qui est un petit peu sans fin aussi.
Dans le design, il y a le design de luxe, on va dire, mais il y a aussi des artistes de design, je pense à Stark par exemple, qui ont popularisé des formes de design très pratiques, hein, et qui a fait baisser des coûts d'une certaine manière.
Le design, c'est avant tout ce qu'il souhaitait être. C'était un design populaire. Le design de luxe, il existera toujours. Lui aussi est héritier de l'artisanat. Mais le design à bas coût, voire même le design anonyme, le design populaire, c'est celui qui doit le plus exister. Mais le design de luxe, il y a un effet de cascade en fait dans le design, si vous voulez, parce que toutes les techniques qui peuvent être mises au point pour dessiner des objets en petite série dans une galerie sont ensuite des choses qui vont ruisseler et découler vers un design plus populaire. Et Stark, vous le citiez, en est un très bon exemple. Il fait autant des pièces uniques extrêmement onéreuses, mais desquelles découle une technique et un nom aussi qui lui permettent ensuite de travailler avec les plus grands éditeurs et de faire des objets abordables pour le plus grand nombre.
Une dernière question, Samerio. Donc là, on est dans un temps fort en région, mais qui est un temps à l'image de l'immensité du monde international, hein. Comment la France se situe par rapport à cet ensemble de l'art du design dans le monde entier ?
L'Europe, de manière générale, le design scandinave, le design italien, les Anglais, les Allemands. Mais disons que oui, toute l'Europe se situe quand même très bien mondialement au niveau du design. Et la France est aujourd'hui, je trouve, une plutôt bonne ambassadrice, dans le sens où elle est capable d'avoir des cabinets de design qui rayonnent à l'international, mais elle est capable aussi, de manière un peu plus anonyme, d'avoir des studios design intégrés de grandes marques qui œuvrent pour le mieux, et aussi de commencer à faire de la recherche par le design et par l'expérimentation et la pratique, ce qui aujourd'hui est essentiel pour la transition écologique.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Samerio, donc, interviewé le 6 octobre, la veille de l'ouverture de cette exposition Louvre Design au musée du Louvre-Lens. Cette exposition est proposée aux visiteurs du 7 octobre au 1er février 2021 dans le pavillon de verre du musée du Louvre-Lens. Son accès est gratuit, tout comme l'accès qui le précède à la Galerie du Temps. Rappelons que le musée est fermé le mardi. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.